Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Gibon, je suis chercheur au Luxembourg Institute of Science Technology. Et pour les 20-30 minutes qui viennent, on va parler un peu de nous, de vous, et quelle est notre relation avec, avec tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les impacts du réchauffement climatique. Cette fois, on va parler un petit peu des causes. Alors, juste pour rappel, vous avez déjà vu cette carte. Ce sont les anomalies de température, pas au niveau mondial, mais localisées par région du monde depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui. Comme a été dit dans la présentation précédente, les pôles sont les plus impactés. On arrive aujourd'hui à des plus 6, plus 7 degrés. Voilà, c'est les parties en rouge qu'on va voir apparaître dès les années 2000. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on fait ici, ça a un impact sur les pôles. Et on a vu hier aussi que les pôles ont un impact sur nous. Donc on est en fait beaucoup plus liés qu'on peut le croire ou qu'on peut le comprendre. Alors, ce dont je vais parler, ce n'est pas le cœur de mes activités de recherche. Ça fait plus partie d'une activité parallèle qu'on a de vulgarisation auprès du grand public et des écoles. On a présenté certaines choses que je vais vous montrer maintenant dans les écoles cette année et qu'on va sûrement continuer l'an prochain. Pour parler un peu de notre rôle à nous, de notre place en fait dans tout ça, place individuelle et collective. Alors on en a parlé un tout petit peu dans certaines présentations hier et même aujourd'hui. Donc pour repartir sur les bases, quelle est la corrélation entre ça et nos émissions de CO2 dont on parle tout le temps? Voilà un rapport, un rapport ici présenté entre les deux paramètres. Donc ça vient du rapport du GIEC, le cinquième rapport d'évaluation, le sixième vient bientôt sortir. Qui nous montre en fait sur l'axe des X, si j'ai un petit. Hop, voilà, sur l'axe des abscisses, on a nos émissions cumulées depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui, et la température en fait va monter en fonction de ces émissions. Alors on voit que plus on va dans le lointain, plus on a une incertitude qui augmente. Tout ça c'est dû aux effets de rétroaction dont on a déjà parlé, qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas vraiment modéliser, les effets de seuil, etc. Aujourd'hui on en est là, un petit peu plus d'un degré. Presque 1,3, je crois. Est-ce que ça fonctionne? Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, alors si on ne s'arrête pas, si on ne fait rien, on va sûrement arriver au-dessus des 4 degrés à la fin du siècle, si on ne fait aucun effort, si on arrive à, en tout cas, faire des efforts, on va dire, modérés, qui font partie des scénarios les plus, on va dire, middle of the road, en anglais, on arriverait autour des 3 degrés. Et l'objectif, c'est surtout d'arriver à ce seuil des 3 degrés, enfin de ne pas y arriver, mais de rester en deçà. Ça fait partie de ce qui a été décidé, en tout cas d'une promesse qu'on a faite il y a 4 ans, presque jour pour jour, je crois, de limiter le réchauffement moyen en deçà des 2 degrés. Et ça implique, en quantité de CO2, d'émettre environ 1000 milliards de tonnes de CO2. Pour toujours, à ne jamais dépasser. Donc c'est un seuil vraiment à ne pas dépasser. On pourra le dépasser si on arrive à extraire les CO2 plus tard et à le séquestrer dans le sol. Mais pour l'instant, c'est un peu notre limite à garder en tête. C'est ces 1000 milliards de tonnes de CO2. Alors, la question maintenant, c'est qui émet? Alors, il y a plusieurs façons de compter les émissions, en tout cas ici, c'est de CO2. Voici un graphe, donc depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. On voit, il y en a un qui est vraiment disruptif ici, c'est la Chine. On est capable aujourd'hui de compter les émissions à l'intérieur d'un territoire, qu'on appelle l'inventaire national de carbone en français, mais qui sont les émissions territoriales à l'intérieur des frontières, et celles liées à la consommation du pays. Donc certains pays ont une consommation en termes de carbone qui est moindre que ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ce sont les pays qui exportent beaucoup. La Chine est l'usine du monde, hein. Donc on voit que leurs émissions en termes de consommation sont inférieures aux émissions territoriales. Et ceux qui consomment le plus, bah c'est nous, c'est les États-Unis, où on a des émissions territoriales qui sont cette fois inférieures à nos émissions dues à notre consommation. Donc pour la France, un graphe que Mme Masson-Delmotte doit très bien connaître, ça fait partie du rapport du Haut Conseil pour le Climat, on voit qu'en fait nos émissions territoriales en France, donc je n'ai pas trouvé vraiment pour le Luxembourg, mais ça doit ressembler à peu près à ça aussi, sauf à cause du tourisme à la pompe, je pense que ça doit aussi altérer. Nos émissions territoriales descendent, nos émissions de consommation par contre ont vraiment du mal à être tirées vers le bas à cause de notre consommation tout simplement, et qu'on importe de plus en plus de produits quelconques, enfin, que ce soit nos biens de consommation, que ce soit n'importe quoi, des voitures, que ce soit même notre énergie. Voilà, donc il y a bien plusieurs façons de parler, de compter ces émissions. Il y a d'abord, donc celle la plus simple, c'est la production annuelle à l'intérieur d'un territoire, et voilà les principaux émetteurs, hein. C'est d'abord la Chine, les États-Unis, l'Europe, un peu l'Inde, et puis ensuite, il y a, je ne sais plus dans l'ordre qui arrive. Ça, c'est en termes de production. En termes de consommation, donc on a bien dit que, par exemple, la Chine consommait moins que ce qu'elle produisait, donc on voit qu'en fait, ils sont moins responsables, on va dire, de leurs émissions. Mais on peut très bien aussi compter tout ce qui a été émis jusque-là. Et là, on voit qu'en fait, la part de l'Europe et des États-Unis est très, très importante, puisqu'en fait, toutes ces émissions sont liées à toute l'énergie qu'on a consommée pour pouvoir se développer et pour pouvoir être des nations qu'on appelle aujourd'hui développées. Et après, évidemment, il y a d'autres. Ça, c'est à comparer à la population ou même au PIB. Donc, on peut essayer de voir, d'approcher le problème de manière différente. Tout ça, ça reste quand même très macro pour nous. Nous, qui vivons en France ou Luxembourg, ça ne nous parle peut-être pas. Donc, maintenant, on va essayer de se pencher sur notre part à nous, donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone individuelle, pour essayer de comprendre quels sont nos leviers d'action, à la fois individuels et collectifs. Alors, cette fois, on ne va plus parler de milliards de tonnes de CO2, mais on va parler... on va parler de milliards de tonnes de CO2. Ce sera pour après. Les principales émissions de CO2 en 1870, ce n'était pas vraiment les carburants fossiles, c'était surtout le changement d'affectation des sols. Alors, quand on développe la culture, l'agriculture en général, et qu'on veut mettre du bétail quelque part, en général, on va soit ratiboiser une forêt, soit en tout cas changer le fait que le sol puisse séquestrer du carbone, et tout ce carbone en fait va être émis. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 14% de nos émissions. Il y a aussi des procédés industriels qui n'émettent pas de CO2 à cause de la combustion, mais bien parce que le CO2 fait partie des résultats, donc des produits, des réactions chimiques qui font partie des procédés. Par exemple, le ciment en est un qui émet du CO2 qui ne fait pas partie des procédés de combustion. Ça fait à peu près 4% de nos émissions. Et ensuite, évidemment, on a le trio de tête, le trio gagnant charbon, surtout utilisé pour l'électricité aujourd'hui, gaz, qui émet un petit peu moins en termes de CO2, mais c'est surtout parce qu'il émet à peu près moitié moins pour une unité énergétique par rapport au charbon. Et enfin, le pétrole, le roi pétrole qui nous permet de nous déplacer et de déplacer les marchandises qu'on achète de plus en plus. Voilà, donc on voit aujourd'hui que les émissions n'ont pas vraiment... Alors, c'est pour 2010, je crois, c'est ce graphe. Mais les émissions ont vraiment du mal à descendre, et je crois qu'aujourd'hui, même depuis l'année dernière, elles ont encore augmenté d'un ou 2% mondialement. Et là, en plus, on ne parle que de CO2. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On en a aussi parlé hier. Le CO2 n'est qu'une partie des gaz à effet de serre. En fait, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat nous dit, en tout cas, inventorie 200 gaz à effet de serre environ, qui peuvent être regroupés en groupe, justement. Un groupe important, par exemple, c'est les gaz fluorés. Les gaz fluorés, c'est ce que vous avez dans vos réfrigérateurs, par exemple, pour bien déplacer la chaleur de l'intérieur du réfrigérateur vers l'extérieur. Ce sont des fluides très caloporteurs, qui sont très, très efficaces pour capter la chaleur. Le problème, c'est qu'ils le sont à la fois dans le réfrigérateur et dans l'atmosphère. Les gaz suivants, donc c'est surtout l'oxyde nitreux. Je crois qu'il y a un rapport, un papier qui est sorti la semaine dernière qui nous montre qu'on est en train de sous-estimer les émissions de d'oxyde nitreux parce que c'est surtout un produit des engrais azotés utilisés dans l'agriculture. Et une fois que la plante a absorbé tout le nitrate qu'elle peut absorber, le reste de l'engrais peut produire du N2O. Et enfin, le méthane dont on parle beaucoup à cause de la fermentation entérique des vaches. Donc c'est tout simplement les vaches qui rotent, qui digèrent et qui émettent ce méthane. Voilà, alors évidemment, ce serait trop simple si on pouvait juste tout additionner. Le dioxyde de carbone, ça va être notre référence pour compter en fait, les unités de réchauffement global. J'ai parlé des gaz fluorés qui étaient très très puissants en termes de pouvoir caloporteur, qui sont en fait à peu près 10 000 fois, 20 000 fois plus élevés par kilogramme, et là en plus c'est sur 100 ans de réchauffement que le CO2. Le N2O c'est environ 300 et le méthane c'est environ 25. Sur 100 ans. Alors le méthane, c'est plus court terme, par exemple, c'est un gaz à durée de vie plus faible que le CO2. Si on regarde sur 20 ans, il aura un pouvoir plus important, etc. Mais on va rester plus simple. Voilà, Donc ça, c'est ce qu'il y a en sortie de nos systèmes industriels pour 2010, parce que je n'ai pas trouvé d'autres graphes. Les émissions viennent surtout de la combustion, donc du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Alors nous, on ne se nourrit pas de gaz naturel, de charbon et de pétrole. Donc en fait, il y a tout un système industriel et de services qui va en fait amener ou transformer cette énergie à des services qu'on peut utiliser. Alors il faut d'abord raffiner cette énergie primaire. Ce qu'on a en haut, all fuels, c'est tout simplement le diesel, le gasoil, le kérosène qu'on met dans nos avions. L'électricité qui est une partie importante, donc là on est toujours en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que l'électricité est quand même une partie importante de nos gaz à effet de serre dans le monde. Il y a tout un écosystème industriel qui est derrière, qui va produire à la fois de la chaleur, des machines qui vont consommer, donc qui vont transformer cette énergie en énergie mécanique pour faire des voitures par exemple, ou pour faire n'importe quoi d'autre. Et il y a beaucoup de déplacements en haut, donc soit le déplacement individuel en voiture, ou le camion pour le fret. Et on voit apparaître en bas donc les émissions dues à l'agriculture, moitié les cultures, moitié le bétail, à peu près, en schématisant. Tout ça, on peut le regrouper en secteurs. Il y a d'abord le secteur du transport, le secteur des bâtiments, le secteur industriel et le secteur agricole. Si vous voulez schématiser et garder en tête un chiffre, c'est à peu près un quart chacun, même si ce n'est pas vraiment le cas comme vous le voyez ici. Et enfin, on arrive à ce que nous, on utilise en fin de chaîne, qu'on consomme avec justement une des deux cartes qu'on a, notre carte de crédit, soit la mobilité, soit du fret. Quand on commande sur Amazon, à chaque fois, c'est un tout petit peu d'émission de cette partie de fret. Au Luxembourg et dans les pays du Nord, on a beaucoup besoin de cette troisième partie en hiver. Les biens de consommation courante, qui sont en train d'augmenter, notamment à cause de l'informatique et des besoins en fait en numérique qu'on a, qui ne vont sûrement pas être réduits depuis qu'on a planifié d'avoir la 5G, par exemple, et des données qui vont devoir être stockées de manière plus en plus exponentielle, on va dire. La construction, donc il faut juste, ça c'est pour bâtir nos maisons, bâtir nos bureaux, bâtir nos industries, et la grosse partie qui est l'alimentation à la fin. On va revenir dessus. Maintenant, on comprend un petit peu mieux pourquoi ces émissions sont liées à nos activités. Et on va essayer de comprendre en termes de consommation comment est-ce qu'on peut quantifier tout ça. Alors on ne parlait que de CO2, désolé pour ceux qui veulent parler d'autres impacts, mais pour l'instant c'est juste l'empreinte carbone. J'oublie ça ne fonctionne pas. Voilà, donc maintenant on n'a plus des milliards de tonnes de CO2, on va compter en kilogrammes équivalent CO2. Le premier poste, comme on a vu tout à l'heure, c'est les transports, en tout cas au Luxembourg. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des calculs faits pour la France et je les transformés pour le Luxembourg. En tout cas pour la partie transport et un petit peu pour la partie énergie dans le logement. Donc on arrivera un peu en dessous des 16 tonnes dont on a parlé hier, mais je pense qu'en réalité, on est autour de ces chiffres. L'automobile, c'est le plus gros bloc au Luxembourg. C'est un pays qui, je pense qu'en moyenne, on conduit 18 000 km par an. Et c'est le pays qui a le plus, en tout cas de cette année, c'est le pays qui a la flotte la plus intensive en carbone, avec à peu près 130 grammes par voiture vendue au Luxembourg, 130 grammes de CO2 par kilomètre. Au Luxembourg, on prend beaucoup l'avion, c'est à peu près 6 vols par personne en moyenne. Donc ça nous fait à peu près une tonne 3, une tonne 4, une tonne 5. J'ai pris un vol moyen pour faire le calcul. On consomme beaucoup en termes de ce qu'on fait livrer chez nous. Donc il y a toute la partie fret, livraison, courrier. Même le courrier, ça fait partie de ça. Et c'est allouable en fait à la partie transport de chacun. Et enfin, la partie train et bus qui reste assez faible, mais c'est surtout pour deux raisons. C'est qu'on est encore assez mauvais au Luxembourg pour prendre les transports publics. Donc on espère que le fait que ce soit gratuit l'an prochain devienne quelque chose qui nous incite vraiment à le prendre, et c'est surtout un moyen de transport très efficace en fait. Par personne, on a quand même beaucoup moins, par personne et kilomètre, on a beaucoup moins de CO2 émis que si on prend sa voiture tout seul. Voilà les deux raisons pour lesquelles on reste avec quelque chose de très faible tout en haut de cette colonne. La partie logement est composée de plusieurs petits blocs aussi. Ça, c'est les factures que vous avez en fin de mois, l'électricité, le gaz et l'eau. Une tonne 7 à peu près. Toute la partie construction, rénovation, si pour ceux qui ne sont pas du Luxembourg mais qui se sont promenés un petit peu en ville, on voit que c'est énorme, on ne peut pas se promener au Luxembourg sans voir un bâtiment en train d'être construit. Voilà où vont les émissions, elles sont toutes allouables en fait à chacun, parce que ma maison elle a été construite à un moment et les émissions qui ont été émises, c'est un peu les miennes. Voilà, et la dernière partie, c'est l'équipement de la maison. Donc là, c'est tout ce qu'on a dans la cuisine, le poêle, etc. Et tout ça, ça fait à peu près 2,5 tonnes. Consommation courante, le blog dont je vous ai parlé tout à l'heure, la partie informatique, équipement Wi-Fi, usage d'Internet, qui est en train vraiment d'augmenter en ce moment. On estime que dans pas longtemps, ça va faire peut-être 3 ou 4% des émissions mondiales, qui est quand même quelque chose d'énorme au niveau mondial, justement. Donc 1,2 tonnes, mais qui risque d'augmenter dans les années à venir. Les autres biens de consommation, donc là, je ne sais plus vraiment ce qu'il y a dedans, mais je crois que c'est l'ameublement, tous nos équipements de sport, n'importe quoi, tout le reste, en fait, est mis là-dedans. Et l'habillement, le textile. Voilà. Alors, suivant si vous êtes plutôt slow fashion ou si vous achetez vos vêtements sur Vinted ou quoi que ce soit, vous aurez peut-être un impact plus faible ou plus fort à ce niveau-là. Alimentation, ensuite, qui est un bloc très important au Luxembourg, puisque le Luxembourg, et je crois à peu près comme la France, consomme environ 80 kg de viande par an, ce qui fait une portion de 200 grammes par jour encore, ce qui est assez énorme. Donc ça nous fait, en sortie de système, une tonne deux de CO2, donc de CO2 équivalent. Là-dedans, il y a du méthane quand même. Produits laitiers, eux, donc c'est encore des produits animaux, il y a encore tout un système d'élevage derrière qui émet aussi. Tout le reste de l'alimentation, c'est ici, c'est surtout les végétaux, les légumes, les fruits, et enfin les boissons. Et un bloc qu'on oublie souvent, en fait, c'est la partie service. On a la chance d'habiter dans un pays qui prend soin de nous, en termes de santé, en termes de défense, en termes de quoi que ce soit. Donc on a à peu près 1 tonne ici aussi d'émissions. Et au total, donc j'arrivais à 13 tonnes de CO2. C'est sûrement un petit peu plus au Luxembourg si on fait le reste des adaptations que j'aurais dû faire. Mais pour l'instant, c'est un mix France-Luxembourg ici. Voilà. La raison pour laquelle je vous ai parlé du budget de 1000 milliards de tonnes tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, ça nous impose un budget à tous qui est entre 2 et 3 tonnes. Donc on prend souvent 2 tonnes pour l'objectif de degré. Ça représente ça. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées de génie pour faire passer tous ces blocs dans le petit carré bleu. On parle entre 2 et 3, évidemment, mais ça ne nous aide pas vraiment là, pour le coup. Je vous propose de se focaliser sur les deux parties sur lesquelles on peut vraiment agir, en fait, en tant que citoyen, en tant que consommateur, justement avec notre carte de crédit, comme l'a très bien dit Franck hier. La partie alimentation d'abord, ça s'est transformé magiquement en anglais. Parfait. Donc, on a environ 2,5 tonnes. 2,5 tonnes pour un luxembourgeois moyen, hein, évidemment. Si vous ne mangez pas de bœuf, ça descend en dessous de 2 tonnes. C'est la partie la plus importante, en fait, à cause du fait que les vaches sont des ruminants. Un régime végétarien vous fera descendre encore un petit peu plus, en faisant fi du porc, du poulet, etc. Et un régime vegan pourrait être estimé à environ 1,5 tonnes. Donc on peut déjà abattre 1 tonne de CO2 en changeant de comportement. Je ne vous dis pas d'être vegan demain, je vous le dis juste qu'il faut penser peut-être à privilégier la qualité de la viande plutôt que la quantité. C'est un exemple. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont bien au-dessus et qui ont un potentiel de réduction bien plus important. Et s'il y en a dans la salle, c'est à vous que je m'adresse. Puisque c'est vraiment eux qui ont le pouvoir de tirer vers le bas leurs émissions. Voilà. Si vous êtes plutôt à droite, vous êtes déjà des bons élèves. C'est plutôt bien. Alors, les questions qu'on pose souvent, c'est les questions, oui, mais l'emballage, moi, quand j'achète, c'est toujours tout plastifié, etc. Et puis, est-ce que c'est bien de consommer quand une nourriture a été importée de l'autre bout du monde? Eh bien, il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Il y en a une très bonne qui est parue dans Science cette année ou l'année dernière, qui nous dit qu'en fait, le transport et l'emballage, c'est à peu près 10-11% de tout le système alimentaire mondial. Alors, évidemment, ici, il y a encore beaucoup de viande, hein, dans la partie agriculture. Si on switch vers un régime plus végétal, la part de transport et d'emballage prendra mécaniquement plus d'importance. Donc ça reste quelque chose d'important, même si pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais il y a d'autres priorités. Donc le total est d'environ 13 milliards de tonnes de CO2, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le diagramme de Sankey, donc le diagramme avec les flux. Le bio, c'est une question qu'on nous pose souvent. Le bio a certainement beaucoup d'avantages en termes de produits phytosanitaires, de préservation de la biodiversité. Le truc, c'est que pour l'instant, en termes de CO2, c'est pas très très clair. Une étude, donc en fait c'est la même étude qui a fait une revue bibliographique de 104 autres études qui ont été publiées sur les conversions de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique de certaines cultures. Donc ici, on n'a pas tous les mêmes. Chaque point, c'est un résultat, mais c'est pas tous les mêmes cultures. Il doit y avoir du blé, je sais pas, des pommes, n'importe quoi, qui sont chacun un point différent sur ce graphe. Comment le lire? En X, on a l'efficacité, en fait, pas l'efficacité, mais le bénéfice que la conversion au bio a apporté en termes d'occupation au sol. Donc c'est l'inverse du rendement. Est-ce que le rendement a augmenté ou pas? Et enfin, les émissions de CO2 sur le cycle de vie de ces cultures, est-ce qu'elles ont augmenté ou pas après conversion? On se rend compte que ce n'est pas vraiment très clair, en tout cas pour le CO2, puisqu'il y a à peu près la moitié des points qui sont au-dessus en fait de notre axe et la moitié des points qui sont en dessous. Donc en fait, c'est vraiment très spécifique à la culture qu'on entreprend de convertir vers le bio. Mais une tendance assez claire, c'est quand même que le bio est moins rentable, donc on aura un rendement un peu faible, un peu plus faible qu'en agriculture conventionnelle, et donc ça sous-entend qu'il faudra plus d'espace de culture pour produire la même quantité de produits, fruits, légumes, etc. Donc évidemment, on ne regarde que deux indicateurs ici, l'occupation au sol, le CO2. Il y a évidemment plein d'autres indicateurs pour lesquels le bio est très bon, c'est juste qu'en termes d'empreinte carbone, ça ne change pas grand-chose. Mais il faut évidemment s'orienter vers le bio pour certaines cultures. Le transport. Pour les Luxembourgeois, je sais que vous avez plusieurs options pour venir, par exemple, d'Esch-sur-Azette au Kirchberg. Esch-sur-Azette, c'est la deuxième ville du Luxembourg, donc en fait, c'est un peu l'aorte du Luxembourg le matin et le soir. Vous avez plusieurs options, hein. Vous pouvez avoir soit une voiture diesel traditionnelle, donc là il n'y a qu'une personne par voiture dans ces calculs là, vous mettez à peu près 7 kg de CO2 tous les jours en venant au Kirchberg et revenant chez vous. Pour l'instant l'électrique au Luxembourg en tout cas, alors on peut rediscuter, j'ai plein de personnes qui me parlent de contrats verts, etc. Mais en termes physiques, l'électricité vient surtout toujours d'importation allemande. Et ça ne permet pas aux voitures électriques d'être très très compétitives en termes de carbone. Évidemment, en 2030, on espère qu'on sera à peu près à ce niveau-là. L'avantage d'une voiture électrique, c'est quand même qu'on peut baisser sa consommation, enfin pardon, pas sa consommation, ses émissions sur sa durée de vie, contrairement à une diesel. En bus et train, ou en bus et train et tram, je ne sais pas si vous avez vu les travaux en fait, dans le centre du Luxembourg, c'est surtout pour le tram. Une fois qu'on aura ça, on pourra faire baisser encore un tout petit peu nos émissions. Puis j'ai mis le vélo pour rigoler, parce que le vélo a quand même un tout petit peu d'impact, qu'il faut quand même fabriquer le vélo. Et par kilomètre, on a quand même un petit impact. Ça, c'était pour le déplacement domicile-travail. Si vous voulez aller à Berlin, vous avez aussi plusieurs options. Vous pouvez prendre le diesel, toujours, donc à peu près 280 kg de CO2 pour faire l'aller-retour. L'électrique en Allemagne, c'est encore un petit peu moins performant qu'au Luxembourg. On espère qu'on sera à peu près là en 2030. Vous pouvez prendre le bus et le train, on peut prendre le bus jusqu'à Saarbrücken et prendre le train en fait jusqu'à Berlin, c'est en fait la meilleure option, environ 90 kg sur l'aller-retour, et puis évidemment il y a l'avion qui est à peu près de 400 kg, donc juste en choisissant de prendre le train plutôt que l'avion, vous émettez déjà 300 kg en moins, ce qui est 300 kg en moins sur votre empreinte carbone, ce qui est quand même assez important. Voilà, juste pour faire la petite pub du liste, on a fait un petit calculateur en ligne qui s'appelle Climobile, que vous pouvez tous tester, qui fait en fait l'analyse du cycle de vie. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en tout cas, c'est assez complet. Vous avez les émissions de la fabrication de la voiture, la fabrication de la batterie, et les émissions dues au carburant et à l'électricité, suivant l'endroit en fait où vous chargez votre voiture, suivant le kilométrage que vous prévoyez de faire avec. Et vous pouvez tester différents modèles de voitures. Donc, une petite base de données en fait, qui permet d'avoir ces comparaisons. Je vous invite à aller essayer si vous voulez, on peut en parler après. Voilà, donc on a parlé de pas mal de leviers d'action. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, de nos 13 tonnes dont on a parlé tout à l'heure, on peut évidemment essayer de réduire en prenant les transports en commun, remplacer l'avion par le train, réduire sa consommation d'abord de bœuf, puis de viande, puis de produits laitiers, dans cet ordre en termes d'efficacité, mais après vous faites ce que vous voulez. Rouler électrique, tout. Un peu plus efficace en France ou en Belgique qu'en Allemagne ou au Luxembourg, par exemple. Éviter le suremballage, mais qui viendra sûrement de plus en plus important si on limite notre consommation de viande mécaniquement. Acheter local, évidemment. Rouler électrique, qui est un peu moins efficace, comme je l'ai dit, mais qui le sera plus dans 10 ans. Acheter bio, pourquoi pas. Est-ce que c'est assez, tout ça? Alors ensuite, des choses dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais évidemment, y éviter le gaspillage alimentaire. Il y a emménager près de son lieu de travail, alors ça c'est très difficile, surtout au Luxembourg, où évidemment tout le monde n'a pas les moyens d'habiter à côté du centre. Réduire la température de sa maison, 1 ou 2 degrés, ça suffit. En hiver, hein, on peut mettre un pull. Acheter de seconde main et durable pour les vêtements. Et pour tout, en fait. Pour les meubles, n'importe quoi. Et là, est-ce que c'est assez si on essaie de cocher nos cases? Où est-ce qu'on arrive? Voilà, si on essaie de tout faire, on a estimé qu'on peut vraiment essayer. Mais là c'est vraiment ce qu'on peut appeler un comportement héroïque, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que ce sera assez? On voit qu'on arriverait peut-être à 7 ou 8 tonnes et ce sera vraiment le maximum qu'on puisse faire parce qu'en fait on vit dans un système qui est déjà carboné. On n'a pas vraiment le choix de notre électricité, même si on peut le faire en prenant des contrats d'électricité verte, mais c'est pas mécaniquement qu'on a de l'électricité verte dans la prise. Pour tout le reste, on peut quand même communiquer, se mobiliser, voter. Voilà, donc la deuxième carte dont on a parlé hier, après la carte de crédit, c'est la carte d'électeur. Et voilà. Alors, il y a une autre étude qui a été faite en France. Malheureusement, après qu'on ait fait ces calculs, ça m'aurait évité pas mal de calculs aussi. Pour la France, donc, il y a un petit peu moindre, en fait, qui est à peu près à 11 tonnes. Le cabinet de conseil Carbone 4 a fait le même travail et a classifié en fait les différents leviers d'action en deux catégories. Les catégories d'abord simples, donc qui ne coûtent pas d'argent, qui sont en fait de prendre plutôt les transports en commun et de changer son mode d'alimentation. Donc on trouve à peu près les mêmes chiffres à gauche qui permettent de réduire d'environ 20%, je crois, notre empreinte carbone. Et les leviers qui demandent un peu plus d'investissement, qui sont de faire rénover sa maison pour l'isolation, de changer son mode de chauffage, et peut-être même de déménager plus près de son lieu de travail, qui sont un autre 20%. Mais avec tout ça, on n'arriverait qu'à 6 quand même. Et pour notre objectif de 2, où est-ce qu'on peut trouver le reste? Voilà, une question qui reste en suspens. Même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire individuellement, je pense qu'on a un vrai rôle collectif à jouer. Il y en a qui ont commencé très individuellement et qui en fait se retrouvaient avec énormément de personnes autour d'eux. Voilà, je trouve que c'est assez encourageant quand même. En un an, on est passé d'une adolescente qui faisait sa grève toute seule tous les vendredis à toute une jeunesse qui se mobilise. C'est des choses qui sont efficaces. À quelques kilomètres d'ici, on a quand même la Banque Européenne d'Investissement qui investit tous les ans quelques milliards dans des infrastructures qui ont maintenant décidé de se désinvestir de toutes les technologies fossiles à partir de 2021, qui est quand même un succès assez intéressant. Donc je pense que même si on a des leviers d'action qui restent individuellement assez faibles, mais qui sont effectifs, on a aussi un rôle collectif, que ce soit en termes de mobilisation ou même ce genre de séminaire par exemple, pour faire prendre conscience à tous qu'on a quand même un pouvoir en termes collectifs. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci.